Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun de vous et nous le bénissons pour sa parole que nous avons déjà entendue et ce que nous allons entendre là. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je vous invite donc à méditer avec moi le texte qui se trouve dans donc Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 23. Et à travers ce texte, nous voulons être encouragés à demeurer fermes dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, va dire qui est Jésus. C'est vrai que dans cette église de Colosse, il y avait certains faux docteurs qui semaient le trouble et qui niaient aussi, donc, malheureusement, la divinité de Jésus. Et donc, l'apôtre Paul va rappeler qui est Jésus-Christ, celui que nous servons. Dans un premier temps, il rend grâce à Dieu pour ces chrétiens de Colosse, et nous l'avons vu la fois dernière. Et en cela, c'est aussi un encouragement pour nous à être reconnaissant à Dieu pour la foi qu'il a suscitée dans nos cœurs, être reconnaissant à Dieu pour les frères et sœurs qu'il nous a donnés, et nous pouvons manifester notre amour envers eux. Et puis, remercier Dieu pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et après, il prie que Dieu puisse remplir ces Colossiens de sa connaissance pour qu'ils puissent avoir une vie qui soit digne du Seigneur Jésus-Christ. Et il les invite aussi à rendre grâce parce que Dieu les a transportés, nous les chrétiens, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, c'est ce qu'il dit dans le verset 12 à 14. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et si Dieu a fait cela, c'est parce que Jésus-Christ est venu, si nous sommes sauvés, s'il a fait de nous son peuple, s'il nous a donné donc des frères et sœurs, c'est parce que Jésus est venu, il s'est humilié, il a donné sa vie sur la croix. Et il est bon de se rappeler qui est notre Seigneur, qui est Jésus-Christ. Et parce que nier qui il est remet en cause aussi la foi. Donc il est important que de génération en génération, notre foi s'affermisse dans le Seigneur et reste attachée à ce que dit la parole concernant le Christ. Alors j'aimerais vous inviter à lire ce passage, le Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voilà, merci Seigneur pour sa parole. Donc, dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul revient sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il le fait, comme je le disais, c'est parce que certains niaient la divinité du Seigneur. Et il est bon que nous relisions ces passages, puisque encore aujourd'hui, certains nient la divinité de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce texte concernant notre Seigneur? Il dit déjà que donc, Dieu nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et donc, c'est par lui que nous avons été rachetés, nous avons la rédemption et nous avons le pardon des péchés. Après, donc, il commence à partir de ce verset 15 pour nous expliquer qui est le Seigneur. Il dit déjà que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ, donc le Fils, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est donc, le titre qui est utilisé pour lui, c'est le Fils. Donc c'est un titre qui souligne la divinité de Jésus. Il est de même ordre que Dieu, le Père. Il est l'égal de Dieu. Il est Dieu. Voilà. Donc, et c'est vrai que lorsque nous parlons avec d'autres, par exemple les personnes musulmanes, ils ne veulent surtout pas entendre qu'on parle de fils. Et pour eux, c'est un blasphème, etc. Donc, il faut bien comprendre ce que veut dire le sens de ce mot, le fils. C'est un terme qui dit que Jésus est de même nature que Dieu. Et dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus disait à la femme samaritaine que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc nul ne peut voir Dieu. Et le texte nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et Moïse aussi voulait voir la gloire de Dieu dans Exode chapitre 33. Et Dieu lui dit que non, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Si tu dois voir ma face, tu dois mourir. Et donc, Dieu lui dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, comment connaître ce Dieu invisible? Comment connaître ce Dieu que nul œil n'a vu? Et donc, pour rétablir la communion avec sa créature, depuis que Adam et Ève ils ont péché, il y a eu cette séparation avec Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ vienne sur la terre, comme il est dit dans Hébreux chapitre 10, qu'il a fallu que le Fils devienne semblable aux hommes pour qu'il offre sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc Jésus, dans Jean chapitre 1, Jean nous le présente dès le premier verset, quand il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein? » Et donc, et c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit là aussi. Donc, celui qui, et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, Jésus, c'est celui qui a existé de toute éternité, l'égal du Père, et il est celui qui est venu pour faire connaître le Père. Il s'est humilié, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il est devenu semblable aux hommes. Et quand on lit le texte de Luc, chapitre 1, lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie la venue du Messie qui était attendu, donc on peut le lire ensemble, il souligne justement pourquoi il sera appelé fils de Dieu. Dans Luc chapitre 1, on peut lire à partir du verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et donc voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc c'est le titre qu'il a. Il s'est fait homme, il est venu par la puissance du Saint-Esprit et il a vécu en vrai homme, mais ça n'a rien enlevé à sa nature, qu'il était aussi pleinement Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 18, l'apôtre Jean nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, hein, parce qu'il est invisible, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et dans au chapitre 14, verset 9, le Seigneur Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Après, dans la discussion, il y a Philippe qui dit, « Mais montre-nous le Père. » Et le Seigneur dit, « Mais depuis si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu me dis, montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il est l'empreinte de la personne, comme il est dit dans Hébreux. Donc, oui, l'apôtre Paul nous rappelle que Jésus, celui qui nous a sauvés, dans le royaume duquel le Père nous a transportés, il est le Fils, l'image du Dieu invisible. Il est dit aussi qu'il est le premier-né de toute la création. Alors, là encore, c'est un titre que l'apôtre Paul utilise, que les personnes pouvaient comprendre. Est-ce que ça veut dire que Jésus, il a été créé comme les anges ont été créés, comme les hommes ont été créés ? Non. Parce que, effectivement, ceux qui ne croient pas en la divinité de Jésus peuvent dire, voilà, il est le premier-né de toute la création, donc il a été créé. Alors, le texte, il suffit de lire quelques versets là pour voir qu'au verset 16, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est lui qui a créé toute chose. Il n'a pas lui-même été créé. Alors, que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il dit qu'il est le premier-né de toute la création? Alors, c'est un terme qui ne fait pas référence à l'ordre de naissance, mais plutôt à la position, qui est plutôt au rang qu'occupe celui qui a été désigné comme étant le premier-né. C'est également donc un titre qui est donné à celui donc qui a le rang le plus élevé. Le premier-né est celui qui est héritier, l'héritier de toutes choses. Par exemple, David, vous savez, il n'était pas le premier-né de sa famille. Lorsque Dieu a demandé à Samuel d'aller chez Isaïe pour choisir celui qui allait succéder à Saül, Samuel pensait que c'était déjà le premier, mais Dieu dit non, c'est pas celui-là. Il pensait que c'était le second, non, c'est pas celui-là. Il dit Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Et puis il y avait un qui était absent, il a fallu qu'on aille le chercher, le tout petit, le dernier, David. Et dans le psaume 89, verset 28, Dieu dit, et moi, je ferai de lui, donc de David, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le premier-né. Et il y a une autre illustration qu'on peut trouver là, une autre image, c'est lorsque Jacob, vous savez, dans l'histoire de Jacob, dans la Genèse, il est vieux, il est en Égypte, son fils Joseph est le grand d'Égypte, et grâce à Joseph, le pays peut tenir pendant ce temps de famine. Et puis Joseph donc a deux enfants, Manassé et Éphraïm. Et Jacob, il est vieux, il a fait toute une série de prophéties sur chacun de ses fils. Et puis, à un autre moment, il prend avec lui les deux enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm. Et puis, il pose sa main sur Éphraïm, sa main droite, pour le bénir. Alors, Joseph n'est pas content. Il dit, non, c'est pas lui, papa. C'est Manassé le premier. Et là encore, Jacob dit, non, ce que je fais, je le fais. Il savait que Éphraïm serait plus grand que son frère Manassé. Et ça, on le lit dans Genèse 48, les versets 14 à 19. Dans Jérémie 31, verset 9, il est dit, « Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né, pour dire qu'il est plus grand. » Donc Jésus, quand il dit qu'il est le premier-né de toute la création, il dit que Jésus a le rang le plus élevé. Il est au-dessus de tout. Il a la première place. Et c'est pour ça qu'il est digne de recevoir nos louanges et notre adoration. Il nous dit aussi que Jésus, donc, il a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui à la fin du verset 16. Il est dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, il rappelle que celui que nous adorons, Jésus, il est le créateur. Lorsque Dieu dit et que le monde soit, Jésus, il est là et c'est lui qui participe à la création des cieux et de la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Et c'est ce que nous dit aussi l'évangile de Jean, chapitre 1, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et dans Hébreu, il dit que les anges l'adorent. Tous les êtres adorent le Seigneur Jésus parce qu'il est le Créateur. Il y a une autre information que l'apôtre Paul nous donne là aussi, au verset 18. C'est que le Seigneur Jésus, le Fils, il est la tête du corps de l'Église. Et dans Éphésiens, il dit qu'il est le chef suprême de l'Église. Donc l'Église, il a donné sa vie pour l'Église. Dieu l'a ressuscité des morts, a manifesté sa puissance en le ressuscitant des morts. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et ça, c'est très important. Parce que Jésus, l'Église, adore Jésus-Christ et lui seul. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur. Le chef de l'Église, ce n'est pas, dans quelque autre religion, on peut dire le pape ou autre chose. Non. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui seul que nous devons adorer. Alors, ce sont des éléments importants qui doivent nous rappeler ce qu'est notre foi, pourquoi on est chrétien. C'est parce qu'on reconnaît Jésus-Christ pour ce qu'il est. Il est celui qui, il est le chef de l'Église, il est celui qui nous a réconciliés aussi avec le Père, parce qu'il a, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, et c'est donc grâce à son œuvre que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et donc ça, on ne peut pas l'enlever. Et grâce à lui, nous pouvons dire que dans notre vie, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il y avait une autre foi avant de l'avoir connue et maintenant. Maintenant que nous savons que nous avons mis notre confiance en lui, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons la vie éternelle et que nul ne peut nous ravir de sa main. Et là, ça change tout. Et lorsque nous parlons de, justement de la situation de notre planète qui va en décomposition et avec les guerres qui ne font que... voilà. Mais ça n'enlève en rien notre assurance, ça n'enlève en rien notre espérance, ça n'enlève en rien notre vision de l'avenir, parce que nous savons que nous l'avons placé notre confiance dans le Seigneur, et ce qui se passe, on n'est pas surpris non plus. Alors que notre cœur ne se trouble point à cause de toutes ces choses. Donc l'apôtre Paul, il rendait grâce à Dieu pour donc, la foi des Colossiens en Jésus-Christ et pour rappeler aussi qui est Jésus, parce que la foi, elle est basée sur cela, sur qui est Jésus-Christ. Et si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Si on ne croit pas que Jésus est le Créateur de toutes choses, si on ne croit pas qu'il est celui seul digne de recevoir la louange, l'honneur, l'adoration, alors on n'est pas chrétien. C'est clair. C'est ce qui fait l'essence même d'être chrétien. Ce n'est pas de dire on croit en la parole, la Bible. Alors je fais attention à ce que je veux dire, on croit en la Bible, mais la Bible dit que Jésus n'est pas le Christ. Parce qu'il y a certains, dans certaines religions, c'est ça leur Bible. Et ils enlèvent cette partie de la divinité de Jésus parce qu'ils ne veulent pas le croire. Et ça, c'est de fausses doctrines. Donc, c'est ça qui fait, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir être capables d'être avec peut-être les gens qui passent près de... qui viennent sonner à nos portes et puis dire, mais pourquoi vous dites ça? Voilà ce qui est écrit, ma Bible, là, votre Bible. Voilà, et puis ouvrir et puis dire, non, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Donc ne nous laissons pas troubler par quelques autres fausses doctrines. Hein, voilà. Alors l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ, je reprends le verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Si du moins. Alors, tout à l'heure, là, j'hésitais à utiliser le mot Bible parce que dans certaines religions, ils ont un livre, ils l'appellent Bible, avec une traduction qui les arrange. Mais ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu qui est traduite à partir des textes originaux et s'assurer que le livre qu'on a, qui a été traduit en français, soit conforme à ces textes-là. Donc l'apôtre Paul dit quelque chose qui a attiré mon attention. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le si du moins nous montre que si on enlève à Jésus-Christ tout ce qu'il a dit là, alors notre foi ne vaut rien. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Et c'est en cela l'exhortation que j'aimerais nous apporter là ce matin, que nous devons rester attachés à cette foi. Et la foi dont il s'agit, ce n'est pas seulement le fait de dire « oui, on croit que Jésus est le Fils de Dieu », ça c'est la base, mais la foi c'est l'ensemble de la doctrine enseignée par les apôtres que notre Seigneur nous a laissés, que les apôtres nous ont laissés et laissés dans la parole. Et dès le début, l'apôtre Paul, il défend cette foi. Il dit le bon combat de la foi, c'est ça. C'est ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche de la saine doctrine. Et depuis le temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà des faux docteurs qui remettaient en cause ces vérités. Donc, essentiellement, aujourd'hui encore, ça existe. D'où la nécessité pour nous tous de chercher à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir être capable de réfuter, pour pouvoir être capable de dire voilà, ce qui est dit là n'est pas conforme à ce qui est écrit. Comme faisaient ces chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est là que doit être notre attitude. Alors, demeurez ferme, demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vois trois moyens pour lesquels on pourrait demeurer fondé et inébranlable dans la foi. La foi, c'est ce que nous croyons. C'est, notre frère nous a parlé de la confession de foi de l'Église. Voilà, c'est ce que nous croyons. Alors, pour rester attaché à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est ce que dit Jude, qu'à cause de ces faux docteurs, il s'est senti poussé d'écrire la lettre afin que les chrétiens combattent pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et en cela, on doit rester attaché à l'espérance de l'Évangile que nous avons entendu. Ce verset 23 dit « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Donc, restez attaché à l'espérance de l'Évangile. Et Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc, ne pas se détourner de l'espérance de l'Évangile, c'est ce que nous dit le Seigneur. Vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous croyez qui il est, alors en gardant l'espérance de son retour, nous savons qu'un jour nous le verrons tel qu'il est et que nous serons avec lui. Alors il faut garder cette espérance. Il ne faut pas laisser les situations présentes, difficiles, nous détourner de cela. Ni quelques enseignements qui nous diraient, comme par exemple... l'apôtre Paul d'Hyménée et Philette qui disaient que la résurrection était déjà arrivée, alors que ce n'était pas encore ça. Jésus n'est pas encore revenu. Alors, notre espérance, c'est le retour de Jésus. Donc, nous attendons son retour. La date de son retour, nous ne le savons pas. Donc, lorsque certains disent qu'il va revenir à telle date, dites-vous qu'il y a un problème. Donc, restez... attaché à cette ferme espérance, et c'est le retour de Jésus-Christ qui stimule notre foi, qui nous encourage à servir à de mieux en mieux notre Seigneur, sachant que nous serons jugés aussi pour cela. C'est garder cette espérance pour continuer à vivre et ne pas sombrer non plus à cause de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Le Seigneur revient bientôt. L'autre chose que j'aimerais souligner pour demeurer fondé et inébranlable dans la foi, donc ce que nous croyons, c'est donc garder cette espérance. Mais l'autre chose aussi, c'est veiller à ce que cet évangile soit prêché par tout le monde. La deuxième partie là, du verset 23, sans vous détourner de l'espérance que vous avez entendue, qui a été prêché, donc l'évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc c'est ça qui me fait dire que nous devons veiller à ce que cet évangile soit prêché partout dans le monde. Et oui, c'est là aussi la mission de l'Église. Cet évangile que nous avons reçu, que nous avons entendu, que nous avons reçu, et qui, à travers cet évangile, nous a sauvés, le Seigneur nous a sauvés, alors nous devons avoir à cœur que cet évangile soit annoncé partout. Ce n'est pas juste dire on le garde pour nous. Et depuis 2000 ans, c'est ce qui se passe. C'est parce que l'évangile a été annoncé, a été prêché, qu'un jour nous-mêmes nous l'avons reçu. Alors pensons aux générations futures. Alors qu'est-ce que l'Église peut faire pour s'assurer que cet évangile soit prêché à toute créature sous le ciel? Alors ça passe par le travail que nous pouvons faire d'évangélisation, de par notre propre témoignage, hein, lorsque nous annonçons l'évangile aux uns et aux autres, lorsque nous distribuons des traités, tous les moyens que nous pouvons pour que les gens puissent entendre l'évangile, cet évangile-là, pas un autre évangile, de manière, il n'y en a pas d'autres. Mais ce que d'autres, si on ne fait rien, mais les autres, Satan, il agit. Mais si nous ne faisons rien, alors Satan qui sème l'ivraie et semer. Mais à nous de veiller à semer aussi le bon gré, le bon grain. Et ça passe aussi par lorsque nous soutenons des missionnaires, des personnes qui vont dans tel ou tel pays où la parole n'est pas enseignée, où il n'y a pas de Bible, etc., pour commencer des œuvres. Ici en France, il y a eu la réforme, etc., mais cette église, comme d'autres, c'est beaucoup des missionnaires, des Américains qui sont venus à un moment. L'histoire de cette église, c'est aussi ça. Aux Antilles, c'était aussi ça. C'est parce que des missionnaires sont partis pour annoncer l'évangile et permettre que cet évangile-là, la foi que nous avons, puisse continuer à se propager. Donc, comprenons que lorsque nous soutenons un missionnaire, c'est important, parce que ce missionnaire fait ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Et donc, en le soutenant, c'est un bras de l'Église qui est là et qui est à l'œuvre. Et l'autre chose, bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais cet évangile qui a été prêché à toute créature sur le ciel, nous devons nous assurer que cet évangile continue à être prêché. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de nous assurer que nous, dans notre quartier, dans notre ville, etc., que nous continuons à prêcher cet évangile et faisons tout ce qui est possible de faire, mais aussi ceux qui peuvent aller au loin, alors que nous puissions les aider pour permettre cela. L'autre chose que j'aimerais dire à partir de ce passage, pour pouvoir demeurer fondé et inébranlable dans la foi, donc cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, donc la parole de Dieu, la foi de Jésus, qui est Jésus-Christ, et le proclamer, c'est aussi en acceptant d'être un serviteur de l'Évangile. L'apôtre Paul dit, « Et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors, il parle pour lui. Alors, il a eu un ministère bien particulier, qui est d'être l'apôtre des païens. Pierre et les autres, c'était pour les juifs. Mais lui, Dieu l'a appelé particulièrement pour qu'il annonce l'évangile aux païens. Mais le terme ministre, c'est, ça veut dire serviteur. Hein. Nous sommes tous, le texte que nous avons lu, servez l'Éternel avec joie. Hein, c'est ça. Donc nous sommes tous des ministres. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Alors, est-ce que nous prenons ce rôle de serviteur et de servante du Seigneur au sérieux? Est-ce que nous comprenons que cet évangile, la foi que nous professons, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que si nous voulons que cet évangile continue à prospérer, à être annoncé, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'engagent aussi pour cela. Et nous tous, nous devons nous engager pour cela parce que nous sommes des serviteurs et des servants du Seigneur. C'est vrai, là, c'est un ministère particulier. Et c'est en ça que je dis qu'il faut que certains aussi acceptent d'être un ministre de l'Évangile, que nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Nous avons tous des dons différents. Donc, on a parlé du corps. Le corps, c'est plusieurs membres avec des dons différents. Donc, tous ne sont pas appelés à être ministres. Déjà, l'apôtre Paul, c'était particulier. Tous ne sont pas appelés à être pasteurs, tous ne sont pas appelés à être évangélistes, etc. Mais pour qu'il y ait des serviteurs, pour qu'il y ait des gens, par exemple des pasteurs, des évangélistes, de ceux qui partent, des missionnaires dont on en a parlé, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent cette charge, qui acceptent cette mission, qui acceptent ce service que le Seigneur leur a donné. Et Dieu appelle chacun à un ministère particulier. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15, dit: « Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Être donc un ministre de Jésus-Christ, c'est être un serviteur de Jésus, celui qui accomplit l'œuvre que son maître veut bien lui confier. Donc, pour que cette foi puisse perdurer, hein, la foi évangélique, la foi baptiste, hein, tout simplement, nous devons veiller à ce que, à garder cette espérance du retour de Jésus-Christ. Nous devons veiller à ce que l'Évangile soit prêché, annoncé partout le monde. Donc, nous poser la question, quelle est notre part dans cela, dans la propagation de l'Évangile, mais aussi nous devons être prêts à répondre à l'appel de Dieu pour servir et pour permettre que cet Évangile puisse être annoncé, puisse être enseigné, pour que là encore, les générations futures puissent être au fait de la foi et que cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes puisse continuer à être annoncée. Et c'est ça qui est très important, frère. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est capital. Là, on arrive, nous sommes à la fin des temps, mais cette fin des temps, c'est encore peut-être 100, 200, 300, 400 ans. Nous ne le savons. Mais pensons aux générations futures. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ça, ça trouve pleinement tout son sens encore aujourd'hui. Et c'est parce que des hommes et des femmes ont toujours voulu garder cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes concernant Jésus-Christ pour qui il est, que encore aujourd'hui il y a des églises évangéliques, mais ça part un peu dans tous les sens. Donc ce que nous croyons que c'est la vérité. Alors qu'est-ce que nous faisons pour que cette parole puisse continuer, que cette parole puisse continuer à être annoncée, que des jeunes, des enfants puissent l'entendre et mettre leur foi en Jésus-Christ pour pouvoir être sauvés et que eux aussi ils puissent le faire après. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous montre en quoi c'est important de demeurer fondé et inébranlable dans la foi que nous professons, ce que nous croyons, Jésus-Christ, et que nous puissions être capables aussi de défendre cette foi et expliquer calmement, avec douceur, ce que dit la Bible. C'est aussi pour cela qu'au mois de novembre, nous aurons un frère qui va nous parler de la doctrine, des doctrines catholiques aussi, comprendre aussi ce que c'est, et puis voir, mais que dit la parole de Dieu, pour pouvoir être capable d'échanger, de discuter, pour dire voilà ce que dit la Bible. Voilà. Donc, ça nous montre aussi l'importance d'étudier la parole. Ça nous rappelle que pour pouvoir demeurer ferme, fondé et inébranlable dans la foi, il faut connaître la foi, donc ce que nous croyons. Et relire la confession de foi de l'Église ne ferait pas de mal non plus. Hein. Voilà, c'est très important, ces choses. Et pour devenir membre de l'Église, il faut adhérer à la confession de foi. Voilà. Une personne dit, voilà, je veux être membre, mais je ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, cette personne-là ne peut pas être membre. Etc., etc. Voilà, que le Seigneur nous aide. Et ce que nous avons besoin, c'est de connaître notre Seigneur de plus en plus. Et ce chant « Te connaître, Jésus », c'est vraiment ce que nous devons rechercher, c'est connaître notre Seigneur. Et que cela puisse nous encourager à consacrer du temps à la lecture, à la méditation, à l'étude de la parole, pour pouvoir mieux connaître le Seigneur, pour pouvoir mieux l'annoncer aussi à ceux et celles qui sont là autour de nous. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen.